n'est pas de toujours répéter ce que l'homme a déjà fait, mais de parvenir à de nouvelles réalisations, à des maîtrises dont nous n'avons pas encore rêvé. Le temps, l'âme et le monde nous sont donnés comme champ d'action. La vision, l'espoir et l'imagination créatrice nous servent d'inspirateur. La volonté, la pensée et le labeur sont nos très efficaces instruments. Qu'y a-t-il de nouveau que nous ayons à accomplir? L'amour. Car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la haine et notre propre satisfaction. La connaissance, car jusqu'à présent, nous ne savons que faire erreur, percevoir et concevoir. La félicité, car jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que le plaisir, la douleur et l'indifférence. Le pouvoir, car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la faiblesse. L'effort est une victoire toujours défaite. La vie, car jusqu'à présent, nous ne savons que naître, grandir et mourir. L'unité. Car jusqu'à présent, nous n'avons accompli que la guerre et l'association. En un mot, la divinité nous refait à l'image du divin.
Que veut dire une victoire toujours défaite?
Toujours défaite, ça veut dire que cette victoire n'est jamais définitive et que toujours elle se termine par une défaite. Une victoire n'est jusqu'à présent, toutes les victoires qu'on a remportées ont des réactions qui finalement sont des défaites. Il n'y a jamais rien qui soit définitif et complet. Chaque fois qu'on a l'impression qu'on a remporté une victoire, on s'aperçoit que cette victoire était qualifiée, c'est-à-dire incomplète, partielle et fugitive. C'est un fait qu'on peut observer toujours si on se regarde soigneusement. Non pas que les choses soient nécessairement telles qu'elles étaient auparavant, non. Il y a quelque chose de changé. Mais tout n'est pas changé et n'est pas complètement changé. C'est très, très visible, très remarquable dans les conquêtes physiques sur le corps. Par un labeur très assidu, on arrive à surmonter une faiblesse, une limitation, une mauvaise habitude. Et on croit que cette victoire est une victoire définitive. Mais au bout de certains temps, quelquefois tout de suite, on s'aperçoit que rien n'est totalement fait, que rien n'est définitif, que ce que l'on croyait avoir accompli est à refaire. Parce que c'est seulement un changement total de conscience et l'intervention d'une force nouvelle, un renversement de la conscience qui peut faire que la chose soit complète. Dans la vieille tradition chaldéenne, il y avait une image que l'on donnait très souvent aux jeunes novices. Quand on les revêtait d'une robe blanche, on leur disait toujours, n'essayez pas d'enlever les taches une à une. Il faut que la robe tout entière soit purifiée. N'essayez pas de guérir vos défauts un par un, de surmonter vos faiblesses une par une. Ça ne mène pas très loin. C'est la conscience tout entière qui doit changer. C'est un renversement de la conscience qu'il faut obtenir. C'est surgir de l'état dans lequel on est vers un état supérieur d'où l'on domine toutes les faiblesses que l'on veut guérir et d'où on a une vision d'ensemble de l'œuvre accomplie. Je crois, un petit peu avant, C'est ici que Sri Aurobindo a dit que les choses sont telles qu'on peut dire que rien n'est fait à moins que tout soit fait. C'est la même idée. Un pas en avant ne suffit pas. Il faut une conversion totale. Peu de fois, j'ai entendu ceux qui faisaient effort me dire « J'essaye, mais à quoi ça sert que j'essaye ? Chaque fois que je crois avoir gagné quelque chose, je m'aperçois qu'il faut encore que je recommence. » C'est parce qu'ils essayent d'avancer en restant sur place. Ils essayent de progresser sans changer de conscience. Il faut que le point de vue tout entier soit déplacé. Il faut que la conscience tout entière sorte de l'ornière dans laquelle elle se trouve pour monter au-dessus et voir les choses d'en haut. C'est seulement comme ça que les victoires ne sont pas changées en défaites. Plus rien.
Mais pour moi, changer sa pensée.
Naturellement, il y a beaucoup de moyens. Mais chacun doit le faire par le bout qui lui est accessible. Et l'indication de ça vient généralement, spontanément, par quelque chose comme une expérience inattendue. Et pour chacun, elle se présente d'une façon un peu différente. Par exemple, on peut avoir la perception de la conscience qui est répandue en surface d'une façon horizontale et qui travaille sur un plan qui est en même temps une surface des choses. Un contact avec l'extérieur superficiel des choses, des gens, des circonstances. Et puis, que tout d'un coup, pour une raison quelconque, je dis, c'est pour chacun, c'est différent. Où il y a un déplacement vers le haut, et au lieu de voir les choses horizontalement, d'être au même niveau qu'elles, tout d'un coup, on les domine et on les voit d'en haut, dans leur ensemble, au lieu de ne percevoir qu'un petit nombre de choses qui vous sont immédiatement proches. Comme si quelque chose vous tirait en haut et vous faisait voir comme du haut d'une montagne ou d'un aéroplan. Et au lieu de voir le détail et de le voir à son niveau, on voit l'ensemble comme une unité et de très haut. Il y a beaucoup de manières d'avoir cette expérience, mais généralement, ça vous arrive comme par hasard un jour. Ou bien une expérience qui est presque opposée et qui revient au même. Tout d'un coup, on s'enfonce dans une profondeur. On s'éloigne de la chose que l'on percevait. Elle vous paraît lointaine, superficielle, indifférente. On entre dans un silence intérieur ou un calme intérieur ou une vision interne des choses, un sentiment profond, une perception plus intime des circonstances et des choses, où les valeurs changent. Et on s'aperçoit d'une sorte d'unité, d'identité profonde qui est unique malgré les apparences diverses. Ou bien, tout d'un coup aussi, le sens de la limite disparaît et on entre dans une perception d'une sorte de de durée indéfinie qui n'a ni commencement ni fin, de quelque chose qui a toujours été et qui sera toujours. Ces choses-là, comme je dis, vous viennent tout d'un coup pour un éclair, une seconde, un moment de votre vie. On ne sait pas pourquoi ni comment. Il y a d'autres moyens, il y a d'autres expériences. Elles sont innombrables. Elles varient suivant les gens. Mais c'est avec ça, une minute, une seconde de l'existence comme ça, qu'on attrape la queue de la chose. Il faut se souvenir de ça. Il faut tâcher de le revivre. Aller au fond de l'expérience, la rappeler, aspirer, se concentrer. C'est le point de départ. C'est le bout du fil conducteur. Tous ceux qui sont destinés à trouver leur être intérieur, la vérité de leur être, il y a toujours au moins un moment de leur vie où ils n'ont plus été le même. Peut-être comme un éclair, mais ça suffit. Ça indique le chemin que l'on doit prendre. C'est la porte ouverte sur ce chemin. Et alors, il faut passer par la porte et avec une persévérance, une obstination à toute épreuve, chercher à renouveler un état qui vous mènera vers quelque chose de plus réel et plus total. On a toujours donné beaucoup de moyens, mais un moyen que l'on vous a appris, un moyen que l'on a lu dans les livres, que l'on a entendu d'un instructeur, n'a pas la valeur efficace d'une expérience spontanée qui est venue sans raison apparente, et qui est tout simplement l'épanouissement de l'éveil de l'âme, une seconde de contact avec son être psychique, qui vous indique quel est le meilleur chemin pour vous, quel est celui qui est le plus à votre portée, et qu'il vous faudra suivre alors, avec persévérance pour arriver, mais qui vous indique comment aller, le commencement. Certains ont ça la nuit, en rêve. Certains ont ça à une occasion quelconque, quelque chose que l'on voit, qui éveille en vous cette conscience nouvelle, quelque chose que l'on entend, un beau paysage, une belle musique, ou bien simplement quelques mots que l'on lit, ou bien l'intensité de concentration dans un effort. N'importe. Il y a mille raisons et mille moyens de l'avoir. Mais tous ceux qui sont destinés à réaliser, ils ont eu ça au moins une fois dans leur vie. Ça peut être très fugitif, ça peut être quand ils étaient tout petits, mais toujours, on a une fois dans sa vie, au moins, l'expérience de ce que c'est que la vraie conscience. Eh bien, ça, c'est l'indication la meilleure du chemin à suivre. On peut chercher en soi, on peut se souvenir, on peut observer, il faut remarquer ce qui se passe. Il faut faire attention, c'est tout. Quelquefois, quand on voit un acte généreux, quand on entend parler de quelque chose d'exceptionnel, quand on est témoin d'un héroïsme ou d'une générosité d'une grandeur d'âme, quand on rencontre quelqu'un qui fait montre d'une capacité spéciale ou qui agit d'une façon exceptionnelle et belle, il y a une sorte d'enthousiasme, ou d'admiration, ou de gratitude qui s'éveille tout d'un coup dans l'être et qui ouvre la porte à quelque chose, un état de conscience nouveau, une lumière, une chaleur, une joie que l'on ne connaissait pas. Ça aussi, c'est une façon d'attraper le fil conducteur. Il y a mille façons. Il faut seulement être en éveil et observer. Il faut d'abord concevoir la nécessité de ce changement de conscience. Adopter l'idée que c'est cela le chemin qui doit mener vers le but. Et une fois que on accepte le principe, alors il faut observer et on trouve. Et une fois qu'on a trouvé, alors il faut se mettre à marcher. Sans hésitation. Au fond, le point de départ, c'est de s'observer soi-même. De ne pas vivre dans une nonchalance continue, un laisser-aller. Il faut être attentif. c'est tout. Il y a ici une question qu'on m'a posée. Paraît-il, il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Je vais vous lire ce qui est écrit, et puis je dirai après. Ça a l'air si convaincant, cette question. Que faut-il comprendre par ne pas avoir de préférence? Ne doit-on avoir de préférence entre l'ordre et le désordre, la propreté et la saleté, etc. Est-ce que ne pas avoir de préférence veut dire traiter tout le monde de la même manière? Moi, je vous réponds, c'est jouer sur les mots. Ce que vous appelez préférence, moi je l'appelle choix. Il faut être dans un état de choix perpétuel. À chaque minute de votre vie, il faut faire un choix entre ce qui vous tire en bas et ce qui vous tire en haut. Entre ce qui vous fait progresser et ce qui vous fait en arrière. Mais moi, je n'appelle pas ça avoir des préférences. J'appelle ça faire un choix. Faire un choix, choisir. À chaque minute, il faut choisir. Et c'est indispensable et encore infiniment plus que de choisir une fois pour toutes entre la propreté et la saleté, morale ou physique. Le choix. À chaque seconde, le choix est devant vous. Et vous pouvez faire un pas vers le bas ou faire un pas vers le haut, faire un pas en arrière ou faire un pas en avant. Et cet état de choix doit être constant, perpétuel. Vous ne devez jamais vous endormir. Mais ce n'est pas ça que j'appelle avoir des préférences. Les préférences. C'est justement ne pas choisir. Il y a quelque chose pour lequel vous avez de la sympathie ou de l'antipathie, de la répulsion ou de l'attrait. Et aveuglément, sans raison, vous vous attachez à cette chose. Ou bien, quand vous avez un problème à résoudre, la solution de ce problème, une difficulté, vous préférez qu'elle soit de cette façon ou de celle-ci. Mais ça, ce n'est pas du tout choisir, n'est-ce pas, la chose la plus vraie. Il n'est pas question de ça. Il est question d'avoir une préférence. Pour moi, le mot a un sens très clair. C'est une chose aveugle, une préférence. C'est quelque chose qui est une impulsion, un attachement, un mouvement qui est inconscient et qui est généralement terriblement obstiné. Vous êtes mis en présence de certaines circonstances. Il peut arriver une chose ou une autre. Et vous-même, n'est-ce pas, quand vous avez une aspiration, quand vous demandez d'être guidé, mais au-dedans de vous, il y a quelque chose qui préfère que la réponse soit comme ça, que l'indication soit comme ça, l'événement se produise d'une façon plutôt que d'une autre. Mais ça, ce n'est pas une question de choix, c'est une préférence. Et c'est cette préférence fait que quand la réponse à votre aspiration, votre prière n'est pas en accord avec, vous vous sentez malheureux. Vous avez de la difficulté à l'accepter. Il faut que vous vous battiez avec, pour accepter quelque chose. Tandis que si vous êtes sans préférence, quelle que soit la réponse à votre aspiration, au moment où elle vient, vous joyeusement, spontanément, vous adhérez dans un élan sincère. Autrement, vous êtes obligé de faire un effort pour accepter ce qui arrive. Une décision qui vient en réponse à votre aspiration. Vous voulez, vous désirez, vous préférez que les choses soient comme ceci et non pas comme cela. Mais ça, ce n'est pas une question de choix. Le choix est... C'est, comme je dis, à chaque minute, vous êtes mis en présence d'un choix. Le choix de monter ou le choix de descendre. Le choix de progresser ou de reculer. Mais ce choix n'implique pas que vous préfériez que les choses soient comme ceci ou comme cela, c'est un fait de chaque minute, une attitude que vous prenez. Ce n'est pas que vous désirez que ça soit comme ceci et pas comme cela. Le choix est une décision et une action. La préférence, ce n'est pas ça. C'est un désir. Le choix est fait et doit être fait. Et si c'est vraiment un choix, il est fait sans se soucier des conséquences. Sans rien attendre pour le résultat. Vous avez choisi selon votre vérité intérieure, selon votre conscience la plus haute. Quoi qu'il arrive, ça ne vous regarde pas. Vous avez fait votre choix, et le vrai choix. Ce qu'il en arrivera, ça ne vous concerne pas. Tandis qu'au contraire, si vous avez des préférences, c'est la préférence qui vous fera choisir d'une manière ou d'une autre. C'est la préférence qui déformera votre choix. Ce sera le calcul, ce sera le marchandage. Vous ferez ça avec l'idée que ça doit arriver, parce que c'est ça que vous préférez. Mais vous ne ferez pas ça parce que ça, c'est la vérité de la chose vraie à faire. Il y a, n'est-ce pas, c'est la préférence s'attache au résultat, agit en vue d'un résultat, veut que les choses soient de telle manière et agit pour qu'elles soient de telle manière. Et alors, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Le choix est indépendant du résultat. Vous ne vous souciez pas de ce qui va arriver. Vous choisissez parce que ça, c'est vrai. Vous choisissez selon la vérité de votre être. Et certainement, à chaque minute, on peut choisir quelque chose que, n'est-ce pas? On est mis dans la nécessité de choisir à chaque seconde. Et on ne choisit vraiment bien, en toute sincérité, que quand c'est la vérité du choix qui vous intéresse et pas le résultat de votre choix. Si vous choisissez en vue d'un résultat, ça fausse votre choix. Vous choisissez parce que c'est ça qui est vrai. Et quoi qu'il arrive, vous avez choisi parce que c'est vrai et c'est cela qu'il fallait choisir. Alors, c'est ça que je dis, c'est jouer sur les mots. C'est mélanger deux choses différentes et puis vous poser des questions qui paraissent insolubles. Parce que c'est un mélange. La confusion est dans la question. Voilà. Quand tu as traité tout le monde de la même façon, ça c'est encore une bien pire confusion. C'est le genre de confusion que l'on fait quand on dit que le divin doit traiter tout le monde de la même façon. Alors, ça ne vaudrait pas la peine qu'il y ait de la diversité dans le monde. Ça ne vaudrait pas la peine qu'il n'y ait pas deux individus pareils. Parce que c'est la contradiction de... la contradiction du principe de diversité. Vous pouvez ou devriez, si vous ne pouvez pas, aspirer à avoir la même attitude profonde de compréhension, d'unité, d'amour, de compassion parfaite pour tout ce qui est dans l'univers. Mais cette même attitude s'appliquera dans chaque cas d'une façon différente en rapport avec la vérité du cas et la nécessité du cas, quoique ce que l'on pourrait appeler un mobile, ce n'est pas un mobile, mais l'origine de l'action soit la même. Mais l'action peut être même totalement et diamétralement opposée et différente, suivant les cas et la vérité profonde du cas. Mais pour ça, justement, il faut que ce soit l'attitude la plus haute, la plus profonde, la plus vraie, essentiellement, celle qui est libérée de toutes les contingences extérieures, alors on peut percevoir à chaque minute non seulement la vérité essentielle, mais aussi la vérité de l'action. Et dans chaque cas, elle est différente. Et pourtant, ce que nous pouvons appeler le sentiment, quoi que ce soit un mot incomplet, ou l'état de conscience dans lequel on agit, soit essentiellement le même. Et ça, ça ne peut se comprendre justement que si on entre dans la profondeur essentielle des choses et qu'on les voit depuis la hauteur la plus supérieure. Et alors, c'est comme un centre de lumière et de conscience qui est assez haut ou assez profond pour pouvoir voir toutes les choses en même temps, non pas dans leur essence seulement, mais dans leur manifestation. Et quoique le centre de conscience soit unique, l'action doit aussi être aussi diverse que la manifestation est diverse. C'est la réalisation de la vérité divine dans sa manifestation. Autrement, c'est supprimer toute la diversité du monde et c'est de la ramener à l'unité essentielle non manifestée. Parce que c'est seulement dans la non-manifestation que l'un se manifeste par l'un. Mais dès qu'on entre dans la manifestation, l'un se manifeste par la multiplicité. Et la multiplicité implique la multitude d'actions et de moyens. Alors, pour résumer, le choix doit être pris sans souci des conséquences, et l'action doit être faite suivant la vérité de la multiplicité de la manifestation. Ça suffit ?